Le saviez-vous, nos yeux sont les premiers à être impactés par notre mode de vie ultra connecté. Pourtant, l'œil, organe de la vue et de la perception du monde, est le symbole du soleil, de la vie, de la lumière, comme l'œil d'Horus dans la mythologie égyptienne. Il est associé à l'intégrité du corps, l'entier, la fécondité. Et ce matin, nous allons découvrir une discipline inattendue, le yoga des yeux. Inspiré d'une médecine indienne d'une grande sagesse, c'est l'Ayurveda. Et pour voir la vie du bon œil, Michel Lyonnais-Dumoutier, spécialiste du yoga des yeux, sera sur ce plateau pour nous apprendre des exercices pratiques à faire en famille. Allez, en ce début d'année, hein, il est temps de faire sa mise au point des yeux, hein ? Bienvenue dans le mag qui fait du bien. Michel Lyonnais-Dumoutier. Ah, ça va être dur hein, pendant toute l'émission. Hein. Est-ce que je vous appelle Michel Lyonnais ou Michel Dumoutier?
Non, Michel, je plaisante. Michel, qui
c'est? Michel, c'est vrai, j'ai le droit. Non, j'oserais pas. Merci d'être avec nous aujourd'hui parce qu'on va voir au-delà des apparences, hein, puisque cette pratique peu connue et qui connaît un intérêt soudain, le yoga des yeux, ne se limiterait pas finalement à qu'une gymnastique oculaire. C'est une médecine ancestrale, l'Ayurveda, qui nous inviterait aussi à plonger à l'intérieur de soi, développer son troisième œil, hein, le chakra de l'intuition. Bref, j'ai appris plein de choses hein, grâce à vous. En seconde partie de l'émission, en plus, on va quand même voir aussi tout l'aspect pratique. Hein. Il y a des jeux à faire en famille, à deux. Vous allez voir, c'est pour améliorer la vue, c'est formidable. Merci d'être avec nous. Et puis bien sûr, notre œil pragmatique, oui je vais tous vous les faire, hein, les expressions pendant l'émission, François Pomès, notre journaliste scientifique.
Qui est là de bon pied, de bon œil.
Ah oui, voilà. Et bon, qu'on voit de loin, enfin qu'on voit à vue d'œil.
Voilà, bon,
oh là là, c'est lourd.
C'est bon,
c'est okay. Bon, on peut passer à l'invité qui fait du bien. Alors votre livre, c'est un guide pratique, hein, le yoga des yeux. Où vous rendez accessible l'Ayurveda, hein, cette médecine indienne ancestrale née il y a 3000 ans. Le yoga des yeux, plus spécifiquement une technique qui nous permettrait de percevoir plus profondément les couleurs, mais également d'améliorer la vue et aussi de calmer notre mental. Parce qu'on l'oublie très souvent, mais nous aurions 6 muscles responsables du maintien, du mouvement des yeux en lien direct avec notre cerveau. Ou notre esprit, d'ailleurs, vous me direz, hein, si c'est la même chose tout à l'heure. Mais avant cela, François, alors, passionné des civilisations anciennes, Ayurveda, Inde, vous nous amenez où, là ?
Ben, je vous amène dans le symbole. Vous l'avez si bien dit dans votre sommaire, c'est vrai que l'œil, c'est aussi un symbole. Et pour le comprendre, il faut se plonger, aller au hasard, dans deux civilisations. La première, c'est la civilisation védique. On est 2000 ans avant Jésus-Christ. On est en Inde, et à ce moment-là, les textes sacrés issus des profondes méditations des rishis donnent naissance notamment à l'Ayurveda, cette science de vie, cette médecine ancienne indienne, dans laquelle l'œil a vraiment une importance capitale. Dans la Dhinacharya, le rituel ayurvédique, eh bien, il faut prendre vraiment soin de son œil. Pourquoi ? Regardez comme c'est poétique, moi je tombe complètement amoureux. Parce que l'œil, c'est le lieu de digestion des impressions visuelles. Donc on n'est pas que dans un organe, dans une fonction physiologique, on est dans une fonction aussi symbolique. Et cette fonction symbolique, on la trouve aussi où ? Dans l'Égypte antique,
ah,
que j'affectionne,
aimait, hein.
2000, 3000 ans avant Jésus-Christ, où l'œil, vous en parliez de cet œil d'Horus. Alors là, on a une symbolique un peu différente parce que l'œil Ujja, qu'on va voir, qui est cette transfiguration entre l'œil humain et l'œil du dieu Horus,
c'est beau, hein.
Dieu faucon, eh bien cet œil Ujja était utilisé pour chasser le mauvais sort, pour soigner, à tel point qu'on l'insérait hein, dans les bandages des momies pendant la momification pour soigner à la place des incisions du corps. Et alors tiens, petite devinette, est-ce que vous savez pourquoi aussi parfois on retrouve des yeux dessinés sur des cercueils dans l'Égypte antique ?
Pour mieux voyager dans l'après-vie ?
Tout simplement pour permettre au défunt, dans son long voyage vers l'au-delà, vers ses champs de dialou, les champs de fèves, les champs de roseaux, pour lui permettre de mieux voir et de voir ce qu'il avait autour de lui. Donc cette fonction symbolique de l'œil ne doit pas évidemment, faire oublier la fonction physiologique, mais j'avais envie de vous en parler ce matin parce qu'elle est très, très importante de toute civilisation et de tout temps.
Merci, François. Alors, Michel Lyonnais-Dumoutier, on va parler un petit peu de votre parcours qui est peu commun. Comment un enseignant, chercheur, docteur en sciences, en vient un jour à s'intéresser aux médecines, à la santé alternative comme l'Ayurveda, la méditation ou encore le yoga ?
Bah écoutez, Karine, ça c'est vrai que c'est un peu surprenant, on va dire ça. Mais le lien commun de tout ça, bah c'est l'astronomie, finalement. Ça va vous paraître peut-être bizarre. Mais quand j'étais enfant, bah je regardais derrière un télescope dans le jardin de ma grand-mère. Et quand je regardais derrière le télescope, bah il faut coller l'œil derrière l'oculaire. Et en même temps, quand on regarde la lunette guide qui permet de s'orienter dans l'espace, et bah il faut remettre ses lunettes. Et je passais mon temps à enlever mes lunettes, remettre mes lunettes, enlever mes lunettes. Donc un jour, j'en ai eu assez. Je me suis dit, il faut qu'à un moment donné, j'arrête de porter des lunettes. Ça a pris du temps, parce que je n'ai trouvé le Centre Tapovan qui m'a donné quelques formations sur ce sujet que quelques années plus tard. Mais là, j'ai compris, et c'est là où mon rôle de chercheur est important, que le yoga des yeux, c'est plein de disciplines. C'est l'Ayurveda, c'est la relaxation profonde, c'est le yoga, c'est l'alimentation, etc., etc. Et j'ai essayé de chercher, de creuser dans chacune de ces disciplines. Mmh. Voilà mon parcours.
Un peu commun, mais très, très poétique aussi. Hein. Alors... racontez-nous l'histoire du yoga des yeux, parce qu'on se demande si finalement c'est vraiment inspiré des textes ayurvédiques, ou si en fait c'est une petite tambouille entre quelques aspirations de l'ayurveda plus un petit peu tout ce qu'on sait au XXe siècle sur
l'ophtalmologie.
Voilà, l'ophtalmologie, exactement.
Ben, je dirais un peu des deux, mais en général, si je peux me permettre.
Ah oui, j'adore.
Moi, je peux pas faire de trucs sur les yeux parce que
c'est bien, c'est de la nuance.
Le créneau est pris. Donc. finalement, comment ça s'est passé? Ben finalement, à la base de tout ça, il y a un médecin formé de la manière occidentale, mais qui est un médecin de nationalité indienne. Donc, il a appris sur le terrain l'Ayurveda. Il a trouvé que c'était extraordinaire. Et il s'est dit, mais pourquoi on ne prendrait pas tout ce qui est positif dans la médecine dite occidentale et dans la médecine ayurvédique? Et c'est là où il a commencé à adapter des exercices pour les yeux dans la médecine ayurvédique, mais en utilisant toutes les vraies techniques correspondant à ça. Et d'ailleurs maintenant, si vous allez dans un hôpital ayurvédique, vous verrez, il y a des départements ophtalmologie. Donc ça existe bien. Mmh. Voilà, donc c'est ça. Alors j'en profite pour dire que cette connexion est très importante, même maintenant, et je dirais aussi que très modestement, le yoga des yeux, eh ben, c'est simplement quelque chose qui permet du confort, de préserver sa vision. Ce n'est pas aller guérir, hein. Il faut aller voir le médecin, bien entendu.
Merci de le préciser. Alors, avant d'aborder justement tous les exercices pratiques pour améliorer, entretenir notre vue, calmer notre mental, bon bref, il y a plein de choses à voir, j'aimerais qu'on revienne justement sur la cause majeure qui fait que parfois on est avec des problèmes de vue ou alors au fil du temps avec l'âge. Est-ce que sur les textes védiques ou peut-être la médecine classique en parle?
Oui, c'est-à-dire que c'est simple finalement, l'enfant il grandit. Donc quand l'enfant grandit, ben ses yeux aussi grandissent. Mais certaines fois, ils grandissent un peu trop long par rapport à la norme ou un peu trop court. Et quand les yeux sont trop longs, eh bien finalement, les rayons qui viennent de l'objet observé, ils vont converger avant. Et donc en fait, on voit flou. C'est ça la myopie, quelque part.
C'est comme quand on règle mal ses jumelles.
C'est exactement ça, c'est comme on règle mal. Et puis, par ailleurs, on peut, avec l'âge, effectivement, avoir des maladies qui arrivent. Mais il faut comprendre aussi que ça, c'est la démarche ayurvédique est différente. Dans l'ayurveda, c'est holistique. Et on va regarder pourquoi on a mal, on ne voit pas bien.
Tout est relié, tout est lié.
Tout est relié. Il n'y a pas que la maladie de départ. Il peut y avoir aussi, vous apprenez le décès d'un être cher. À ce moment-là, peut-être que ça peut vous brouiller la vue, etc. Donc, l'Ayurveda va regarder l'ensemble et pas traiter les gens de la même manière.
Alors, les études sont sans équivoque. Hein. Nous serions 7 personnes sur 10 en France à porter des lunettes. Ouais. Alors, au-delà de l'accessoire de mode pour certains, hein, comment expliquez-vous cette perte de vue? À vue d'œil.
Oh non.
Oui.
Elle a osé.
Ben, on perd la vue à vue d'œil, effectivement. Ben oui, c'est intéressant parce qu'en fait, ça servait à quoi? Ça servait à quoi dans le temps l'œil? Ben, c'est tout coup quand vous étiez homme ou femme préhistorique, vous essayez de guetter qu'il n'y a pas un lion qui surgit au lointain, ou vous alliez peut-être l'antilope que vous alliez manger le soir même. Mais ça a changé parce que maintenant la moitié de la population mondiale habite les villes, donc la limite ce sont les murs de la ville et pire, si j'ose dire, l'écran devant nous. Donc l'œil, il est complètement sous-utilisé, mais il est aussi surutilisé. C'est-à-dire que quand vous allez au restaurant, en général, souvent les gens prennent des photos, l'envoient à tous les copains par les réseaux sociaux, alors qu'en fait l'intérêt d'un plat, c'est de le goûter, de sentir que ça craque ou pas, etc. Donc les autres s'en sont sous-utilisés, et finalement, c'est pour ça qu'on a donc un œil qui est moins bien, moins performant.
Moins aiguisé.
Moins aiguisé, parce qu'en plus il y a de la pollution, parce qu'ensuite il y a, on a les burn-out, etc. On a toutes ces choses-là.
Vous avez raison, on n'est plus, aux aguets un peu, comme,
ouais, là, hein,
comme les chasseurs, c'est-à-dire qu'on ne fait plus bouger les yeux. Mais... Et même, je me disais, dans le métro, tout le monde a un casque, oui. Tout le monde lit ou regarde son portable, mais finalement, on a plus cet instinct qui nous permet aussi de nous protéger.
Oui, tout à fait. Tout à fait. De regarder au loin, regarder, ou par contre auprès, parfois il peut y avoir un danger proche. On a plus ce réflexe-là. On est dans une société qui est effectivement maintenant beaucoup plus normée, et où on est dans son journal, où on est dans son écran souvent d'ailleurs. Oui. Voilà, donc on est plus...
La bulle fait un mètre en fait de diamètre. Voilà,
c'est ça. Et donc ça peut être même dangereux. J'imagine même en voiture, finalement, on est moins concentré même quand on écoute la radio.
Ah, ça, je le pense, oui, parce que c'est sûr que écouter en même temps qu'on voit, dans ce genre
de choisir.
Là, il vaut mieux choisir, à mon avis.
Ouais. Comme quoi, il y aura un nouveau slogan. Hein.
Voir ou conduire, il faut choisir.
C'est ça.
Bien joué. Vous êtes mis d'accord avant ou pas?
Ouais, non, pas du tout. Pas du... Vous savez, nous, on est un petit tic-tac sur le plateau.
Rien n'est écrit avant.
C'est vrai, en plus. Alors, quels ont été les progrès que vous avez pu vérifier grâce à cette pratique du yoga des yeux? Parce que vous racontiez votre jolie histoire, petit, vous regardiez, vous étiez passionné de l'astrologie, et vous avez dit que vous avez évolué, justement, aujourd'hui, vous ne portez pas de lunettes, en tout cas, pas sur le plateau. Mmh. Est-ce qu'on peut véritablement améliorer notre vue au point d'arrêter de porter des lunettes ou des lentilles avec le yoga des yeux?
J'ai combien de doigts, Michel?
Alors, ça, c'est un autre sujet, par contre. Je vais peut-être pour repousser ce... Voilà. C'est une question très intéressante, en fait, parce que je vais répondre à l'envers. Que moi, j'ai commencé par enlever mes lunettes pour mieux voir.
Waouh!
Parce que finalement, quelque part, moi, mon réflexe le matin, je me levais, je mettais mes lunettes et je les enlevais, devinez quand, le soir en me couchant. Alors qu'en fait, j'en avais pas forcément besoin. Et en les enlevant, je me suis rendu compte. Bon, bien sûr, faut pas faire ça. Je vais pas dire aux gens qui conduisent de nuit ou qui ont des besoins d'avoir, ou qui sont extrêmement myopes ou hypermétropes, de ne pas en mettre. Mais dans la vie courante, on n'a pas besoin.
Dans des endroits sécurisés.
Sécurisés, voilà. Et bien entendu, et là, progressivement, la vision s'affine, etc. Plus les exercices, ça permet d'y arriver.
Alors, vous dites que le yoga des yeux ne se résume pas simplement à des postures yogiques, hein, ça on l'a entendu tout à l'heure. Et justement, il s'agit d'aborder une nouvelle hygiène de vie, basée bien sûr, inspirée de l'Ayurveda, cette médecine indienne ancestrale. Alors, quelles sont les nouvelles habitudes, pour tous ceux qui nous regardent, quelles sont les nouvelles habitudes qu'on pourrait insérer là, dès aujourd'hui, dimanche matin, pour s'entretenir notre vue, l'améliorer? Peut-être qu'il y a des aliments à bannir?
Oui, tout à fait.
Qui agissent sur la vue.
Oui. Absolument. Alors, des choses à mettre. Alors, je ne vous demanderai pas de faire comme les Indiens qui se lèvent à 5 heures du matin pour faire tous les petits rituels et faire leur yoga devant le soleil. Mais à part ça, on peut
et
très
simplement. Et pourquoi pas.
Et pourquoi pas, ça se fait. Et pourquoi pas aussi utiliser un gratte-langue qui va enlever les toxines qui sont sur la langue. Aussi, également, ce qu'on peut faire, c'est une habitude indienne.
Alors, attendez. Je me lève le matin.
Voilà.
Comment ça se passe?
Vous allez dans votre salle de bain.
D'accord.
Vous prenez votre... Alors, les gratte-langues, c'est quelque chose qui le forme un peu en V.
Qu'on trouve à la pharmacie.
En cuivre ou en alliage. On gratte la langue. Voilà. Donc, ça enlève les toxines qu'on a accumulées pendant la nuit. Alors, pourquoi enlever les toxines?
Voilà, c'est ça qui m'intéresse aussi.
Oui, parce que les gens n'y pensent pas toujours. C'est que l'œil, il est très vascularisé. Il y a beaucoup de petits canaux sanguins. Et le fait d'avoir des toxines, ça peut se déposer et ça peut un peu limiter la vue.
D'accord.
Et d'ailleurs, des remèdes ayurvédiques qui permettent d'enlever cette couche. Et c'est extrêmement impressionnant de revoir comment les couleurs sont vives après qu'on ait mis ce produit.
Waouh, c'est super.
Enfin, je ne vous conseillerais pas, qu'il est tout même, il fait un peu mal, hein, mais bon, mais ça marche. Voilà, bon, alors à part ça.
Il fait mal pourquoi? Il faut se mettre le doigt dans l'œil?
Ça pique.
Ah, ce sont des collyres ou des.
Vous savez que j'avais entendu d'ailleurs sur le yoga des yeux qu'il fallait mettre quelques gouttes d'urine dans les yeux.
Oui, alors ça, moi je me.
En ayurveda. D'accord, ok. Bon, j'ai toujours une petite anecdote. Vous savez qui traîne quelque
part. Le dimanche matin, c'est très sympa.
Bref, et donc la deuxième chose.
Alors, pour éliminer aussi les toxines, on peut très bien prendre une cuillerée d'huile de sésame, parce qu'elle draine plus les toxines, le mettre dans la bouche.
Et chaude ou froide?
Normal, vous le prenez comme ça. Bon, il faut s'y faire la première fois, hein. Peut-être essayer avec de l'eau la première fois pour tester. Après, on s'y habitue très facilement.
On l'avale ou on rince?
Non, simplement vous la laissez dans la bouche. Vous bougez, vous vous maquillez, vous vous rasez, faites ce que vous voulez. Puis peut-être 5 minutes après, 5 minutes, je dirais, 5 minutes, vous allez finalement recracher cette huile et vous vous rendez compte d'ailleurs qu'elle est devenue blanche parce qu'elle s'est chargée de toxines.
Waouh!
Alors moi j'avais vu ça en Ayurveda, mais j'ai une de mes élèves qui un jour m'a dit: mais tiens, j'ai essayé, ça marche très bien avec les aftes aussi. Quand j'ai des aftes, je fais ce système-là le matin et quelques jours après, je n'ai plus d'aftes.
Ah. Intéressant, on va apprendre plein d'astuces. Et ça permet d'entretenir la vue, mais aussi de l'améliorer. Hein.
Alors, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour éviter de la dégrader, parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. On peut aussi tout simplement mettre des cotons imbibés d'eau, avec un peu peut-être quelques gouttes d'eau de bleuet. Quand vous rentrez de votre travail, vous vous installez, vous mettez ça, ça vous relaxe, ça vous fait un break pour la suite de la vie. Oui, ça va permettre d'améliorer au moins ponctuellement la vue, c'est certain.
Ah, moi, je connaissais la décoction de camomille aussi.
Ça existe aussi.
Voilà, mais alors c'est plus anti-cerne, mais ah, est-ce oui, que les yeux... mais les yeux, non, pas du tout. La camomille...
On peut mettre aussi de la camomille, mais il faut...
D'accord.
Bon, en général, c'est de bleuet ou de... Ou
j'ai
de
lu le bleuet, ouais.
Alors, racontez-nous tout, parce que quand on pense aux postures yogiques, on a du mal hein, à s'imaginer une salutation au soleil en étirant nos muscles oculaires. C'est quoi c'est d'autres poses qu'est-ce qui se passe?
Ça me donne des idées, tiens, je vais devoir mettre ça au point. Non, ce qu'il faut voir, c'est qu'une pratique de yoga, en fait, finalement, c'est une série de postures. Et là, imaginez qu'il y ait là une... C'est pas très compliqué, il y en a quelques par ici, qui est une caméra qui est fixée sur un trépied. Et sur cette caméra, il y a une optique, et l'optique, c'est l'œil. Imaginez-vous, Karine, assise debout sur votre tapis, les deux jambes, comme il y a pas, c'est pas un trépied, mais il n'y a que deux jambes, et c'est quelque part, l'être humain, c'est un peu comme cette caméra. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que pour vous voyez bien, il faut que vous soyez ancré dans le sol. Donc, il va falloir faire des postures, vous allez vous ancrer, des héros, des mouvements de bras, etc.
C'est beau, pour bien voir, il faut s'ancrer.
Il faut s'ancrer.
C'est très tellement important. Spirituel.
Ah oui. Je suis d'accord, c'est la base, effectivement. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut détendre la rotule entre la caméra et le trépied. Et finalement, quelque part, cette rotule, elle est coincée devant l'écran, tout ça est bloqué, et il faut donc détendre, mettre de la mobilité, de la souplesse, parce qu'en plus, il y a les nerfs optiques qui sont là. Donc tout ça, c'est très important de travailler cette zone-là. Alors, il y a des sortes d'exercices, des mouvements de bras, etc., pour gérer ça. Et après, il y a la caméra. Et la caméra, c'est tout simplement des exercices de suivi du pouce avec le regard.
Ça, on fera du côté pratique tout à l'heure.
C'est parfait, hein? On peut le faire.
On va faire ça tout à l'heure.
Voilà.
On fait une petite pause pour le moment, puisque vous connaissez Valérie Romanoff? Non, peut-être que connaissez sa sœur, c'est Anne.
Ah oui, alors...
On pourrait la regarder les yeux fermés.
Ah, d'accord.
Oui, vous allez voir, elle fait tellement de bien par sa voix douce et chaleureuse. C'est notre hypnothérapeute qui fait du bien et qui nous donne des conseils chaque semaine. Et c'est tout de suite, parce que ça fait du bien.
Parfois, on porte sur soi un regard très négatif. Voici un moyen pour améliorer votre estime de vous sans bouger de votre canapé. Pensez à quelqu'un qui vous aime ou qui vous apprécie beaucoup. Flottez hors de votre corps et entrez dans le sien, comme si vous étiez vraiment cette personne. Regardez-vous avec ses yeux, sentez l'amour qu'elle éprouve pour vous et remarquez les qualités qu'elle apprécie, les capacités qu'elle admire, tout ce qui l'attire en vous. Revenez maintenant dans votre corps et prenez le temps, en fermant les yeux, d'apprécier tout ce que vous venez de découvrir. Goûtez cette sensation agréable à l'intérieur de vous et donnez-lui une couleur. Faites circuler cette couleur de vos orteils jusqu'en haut de votre tête pour qu'elle remplisse votre corps entièrement. Et vous pouvez imaginer tous les domaines de votre vie qui se colorent également tant cette couleur resplendit sur tout ce qui vous entoure. Vous pouvez ensuite repenser à cette couleur à chaque fois que vous en avez besoin et vous sentir immédiatement rempli d'énergie positive, parce que ça fait du bien.
Merci Valérie. Alors, on discutait là en backstage et en fait, il y a une autre astuce géniale en fait sur le col.
Ah oui, parce que moi, on m'a dit quand j'ai fait ma formation en yoga des yeux, Michel, si tu ne te mets pas de col, je ne te donnerai pas ton certificat de...
C'est du crayon noir.
Alors, c'est du crayon noir. Et en fait, finalement, le vrai col est un antiseptique et il va avoir un effet sur les yeux positif.
Donc, et c'est pour ça que les femmes s'en mettaient en Égypte, voilà, dans tous les pays... Barrière antiseptique, oui, c'est génial. Alors, avant d'aborder, hein, encore une fois, le yoga des yeux et puis de s'amuser ensemble, parce que vous allez voir, on peut jouer seul, à deux ou même en groupe pour améliorer notre vue, l'entretenir, calmer son mental, tout ça. Et même la posture est importante. Hein. Vous allez voir, même pour le télétravail, on va apprendre plein de choses. Mais avant cela, vous abordez aussi, je le disais en début d'émission, hein, que le yoga des yeux, c'est aussi... il y a un aspect vraiment spirituel. C'est-à-dire que nous ne verrions pas mieux que d'un point... pas qu'au sens propre, mais également au sens figuré. Comment expliquez-vous que finalement, en travaillant sur le yoga des yeux, en voulant améliorer notre vue, hein, concrètement, eh bien, on développe notre intuition et notre créativité. C'est beau.
C'est très beau et c'est très vrai en plus. Parce qu'en fait, c'est vrai, c'est important cette question-là. Quand l'exercice de yoga des yeux classique, tel qu'on en a parlé, finalement, ben, ça vous permet d'avoir une meilleure vision extérieure. Ça vous permet de vous repérer, voir si le feu est vert ou rouge, si vous pouvez traverser, si un panneau, bon. Mais imaginez maintenant que vous êtes au bord de la mer, que vous voyez un coucher de soleil magnifique, de la lumière rouge, etc. C'est quelque chose d'autre. vous voyez, mais c'est quelque chose, ça touche quelque chose de profond en vous. Regardez une très belle statue, c'est quelque chose qui est très profond en vous, qui va vous toucher et qui va vous faire entrer en vous-même dans des zones extrêmement profondes. Donc en fait, c'est ça qu'on peut atteindre. Et moi, par exemple, je vous donnais un exemple concret. Il y a un exercice très classique en yoga des yeux. Ça consiste à regarder une bougie allumée. Et cette bougie, vous allez la regarder un certain temps, puis ensuite vous allez fermer les yeux et vous allez l'intérioriser. Donc cette lumière, elle entre en vous et elle va dans les parties les plus intimes de vous. Et en fait, c'est cette zone où il y a justement l'intuition, la créativité, etc. Donc c'est pour ça que quand on travaille sur le regard extérieur, il y a un certain nombre d'exercices qui permettent de travailler aussi sur le regard intérieur, ce qui n'est pas moins important. Parce que n'oubliez pas, pour bien voir, il faut que le mental soit détendu et que l'ensemble, y compris cet aspect-là de notre individu, soit détendu.
Et parce que c'est le mental qui traite les informations de l'œil, donc s'il est embrumé...
Alors, et là, c'est vrai, c'est que vous avez tout à fait raison de le signaler, on voit le scientifique qui est là, c'est que l'œil est un capteur qui n'est pas extrêmement performant, mais il y a un traitement de l'image extraordinaire qu'est l'œil, qui reconstitue, qui recalcule les images. Mais alors après, la question est où se trouve la pensée dont je parle, est-ce qu'elle est dans le cerveau, est-ce qu'elle est ailleurs, ça c'est... On le voit plus dans les textes ayurvédiques, etc. Ou dans les...
Et pour venir justement à ce troisième œil, finalement, à ce chakra de l'intuition qu'on développe naturellement, ça me rappelle une jolie phrase qui disait que la contemplation ouvre le grand soi. Quand vous parlez de la bougie, de contempler, finalement, ça ouvre quelque chose et donc ça pourrait rejaillir aussi sur les yeux et la vue. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. Alors, on a encore plein de choses à voir ensemble. Vous restez avec nous. Il est temps de buller avec François et de partir aujourd'hui.
Loin, oh,
loin toujours,
dans l'espace.
Toujours très loin dans l'espace, mais on adore ça. Alors François, on va où aujourd'hui?
Vous n'avez pas de lancement, hein, c'est ça?
Bon, en fait, vous savez, j'aime bien qu'on soit vraiment à l'aise et qu'on ne suive pas le conducteur.
Oui, bah, vous l'êtes complètement à l'aise. Et de toute façon, on reste avec vous, Michel Lyonnais-Dumoutier, parce que c'est en vous que j'ai trouvé l'inspiration. D'abord, vous m'aviez parlé de deux livres. Vous êtes un passionné de mégastructures, en plus d'être un passionné des yeux. Et vous avez écrit deux petits livres que je voudrais présenter parce que ce sont eux qui vont nous amener dans l'espace. Vous allez voir comment. Le premier livre, c'est un livre qui explique la construction de la Tour Eiffel pendant l'exposition, pour l'exposition universelle de 1889. Ça, tout le monde le sait. Mais tout le monde ne sait pas comment et pourquoi elle a été construite. Ça rentre dans le détail de la mégastructure. Et ce livre m'a amené à une autre petite mégastructure. Alors, autant vous dire que c'est un livre qui a déjà été édité 3 fois, il est en rupture de stock. Moi, ça me surprend parce que je serais incapable de faire ça. Vous apprenez aux gens à construire...
Ça, c'est une super info.
...leur télescope.
Ça, c'est génial.
Et alors, c'est pas si difficile que ça. Il faut juste suivre les pages, vous expliquer pas à pas avec des photos comment on construit un télescope. C'est absolument dingue. Il y a encore des gens, beaucoup de gens qui...
Vous avez testé?
Aujourd'hui,
vous l'avez construit?
J'ai commencé à regarder. Mais alors, il faut prendre son temps. Il faut parfois 1 an pour le faire. Mais au bout du bout, vous arrivez à construire le télescope. Et ça sert à quoi de construire son télescope? De partir dans les étoiles. Et c'est ce que je vais vous montrer. J'ai retrouvé des images prises par les télescopes de l'ESO à Paranal, donc dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. Et regardez ça, c'est notre Voie lactée pendant, je ne sais plus combien de jours, mais ils ont fait... Ah ben pendant toute une nuit, ouais, on a filmé la Voie lactée pendant plusieurs nuits.
On la met plein pot,
excusez-moi. On la met plein pot, on fait profiter.
Le téléspectateur, voilà,
exactement,
génial.
Cette Voie lactée filmée pendant plusieurs jours, et donc on voit la Terre, c'est la Terre qui tourne, et donc on a l'impression que le ciel tourne autour de nous, et c'est pris par les télescopes de l'ESO. Et c'est ça que vous pouvez voir grâce au télescope.
Et ça, c'est de la contemplation qui ouvre le grand soi. Et finalement, en travaillant sur ça, ou en regardant les étoiles, on travaille notre vue.
Moi, quand je suis stressé,
tout à fait,
je mets une vidéo comme ça, je regarde, et je vous assure que ça vous fait redescendre tout de suite.
C'est ça. Ou alors un concert classique aussi. Je trouve que
voilà,
le son,
mais là, on
n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
Il y a d'ailleurs des thèmes de méditation sur l'étoile polaire. On peut méditer sur l'étoile polaire pour apprendre des choses. On peut méditer sur les astres. C'est prévu dans les textes du yoga. Donc ça, c'est prévu aussi.
Petite info d'ailleurs, est-ce que vous connaissez l'étoile la plus brillante dans le ciel?
C'est Sirius, non?
Bravo, c'est Sirius. Ah, je vous ai piégé, c'est la première fois.
C'est la première fois que
j'arrive à vous piéger, François.
Je ne suis pas du tout omniscient, donc oui. Et merci pour votre réponse.
Merci, François, en tout cas pour cette belle bulle. Comme d'habitude.
Cette belle bulle.
Vous restez avec nous, Michel Lyonnais-Dumoutier. Vous avez vu, hein, c'est long, mais c'est joli. En fait, finalement, c'est poétique. On se retrouve tout de suite. On a encore plein de choses à faire et à voir ensemble. On va s'amuser. On va pouvoir jouer avec vous. Vous allez pouvoir jouer avec vos enfants. On va vous montrer, en fait, des exercices dans quelques instants pour améliorer notre vue, mais aussi l'entretenir, calmer notre mental, voir aussi les bonnes postures en télétravail. C'est intéressant. Bref, on a plein de choses à voir. On se retrouve juste après une toute petite courte Pause. Ceux qui nous ont rejoints, bienvenue dans le MAC qui fait du bien à nos côtés. Attention, hein, c'est passionnant. C'est Michel Lyonnais Dumoutier, spécialiste du yoga des yeux. Alors en première partie, on a vu des choses incroyables. Hein, comment améliorer sa vue, développer son intuition grâce au yoga des yeux. Maintenant, on va passer aussi au côté pratique. Alors ouvrez l'œil, hein, parce que finalement, c'est très simple d'aborder le yoga des yeux. C'est une discipline inspirée par l'Ayurveda et vous en saurez plus dans quelques instants si vous nous avez rejoints. Mais avant cela, alors là, c'est encore une fois une chronique que vous adorez, c'est le test de personnalité et c'est le senti-test qui fait du bien, c'est avec François. On va jouer. Oui, j'en ai refait une encore. Parce qu'en fait, on se moque depuis le début de l'émission, je n'arrête pas de faire des jeux de mots sur l'œil.
Et là, vous m'aviez dit, vous me faites les gros yeux. Voilà. Oui, parce qu'alors là, ce test, il est puissant. Faites-le seul.
Ah, génial.
Ah, ouais. Non, c'est un test absolument génial. Âme sensible, s'abstenir.
Ah bon, à ce point-là?
Alors, juste avant de le commencer, j'ai envie de vous dire, personne n'est parfait. Voilà, nobody's perfect, comme le faisait dire...
Oh là là, la pression.
Dans certains Lem Show en 1959. Voilà. C'est un test rigolo, c'est un test japonais qui va aller au plus profond de vous-même. Alors vous prenez une feuille de papier, un stylo, oui, faites-le seul, ce test, surtout pour écouter les réponses. Ou faites le test ensemble et allez vous isoler pour entendre les réponses.
Ah bon, à ce point-là ?
Oh oui, je suis tout excité juste à l'idée de vous le faire passer.
C'est pas possible.
Alors, moi je vais noter vos réponses, écoutez-moi cette petite histoire et répondez aux questions que je vais vous poser derrière. Alors... imaginez une chose, vous n'avez pas mangé depuis ce matin et c'est l'après-midi. Vous avez faim, vous avez très faim, le ventre gargouille et vous vous promenez à la campagne. Et tout d'un coup, à côté de vous, vous voyez un champ de fraises. Elles sont succulentes, ces fraises. Elles sont mûres à point. Vous les voyez. Et le champ est protégé par une barrière. Et vous vous dites que là, il faut aller manger ces fraises, vous n'en pouvez plus. Première question, quelle est la hauteur de cette barrière ? Petite, grande, basse, très haute, c'est un mur.
Carré. Franchement, le petit, au genou.
Oui, oui, quelque chose comme ça.
Hein?
Oui.
Elle est au genou. Bon, vous craquez, hein, puisqu'elle est au genou, vous franchissez la barrière, c'est pas bien, hein, parce que vous savez que ce champ, vous n'avez pas le droit d'y aller. Hein. Mm. Franchissez la barrière et vous allez goûter une fraise, peut-être plus. Combien de fraises allez-vous manger ?
C'est que je n'ai jamais volé, hein. Même pas une pomme, je me rappelle en sortant
d'école.
N'en
mangez pas alors.
Bah franchement, j'ai le droit ou pas de
bien sûr, bien sûr.
En fait, je mange pas parce que je ne sais pas voler.
Difficile, hein. Elles sont vraiment très belles, ces fraises.
Elles sont très, très belles.
Je pense que moi, j'aurais un autre raisonnement. D'abord, j'aime pas voler. Puis peut-être que c'est pas très bon de commencer à manger des fraises alors qu'on a très faim, etc. C'était pas très bon.
Ah, la sagesse aussi.
Oh, quelle sagesse.
C'est beau.
Bon, eh bien, vous faites bien parce que là, le fermier vous aperçoit dans son champ.
Ah, ça y est, c'est fini.
Non.
Ah, d'accord.
Le fermier vous aperçoit dans le champ, c'est la suite de l'histoire. Il commence à vociférer et vous bredouillez une petite excuse parce que, bon, vous n'avez pas mangé de fraises, mais peut-être chez vous, vous avez mangé. Qu'est-ce que vous lui dites à ce fermier pour vous excuser parce qu'il est en train de vous dire « Qu'est-ce que vous faites dans mon champ ? Vous êtes en train de piétiner mes fraises, peut-être même de les voler. » Comment vous défendez-vous ?
Alors, je lui dis « Écoutez, c'est vrai que j'ai été tentée. » Je les ai admirées et je lui dirais qu'elles sont vraiment très très belles ces fraises, très gourmandes, et que je lui souhaite vraiment de les vendre.
D'accord. Et vous, Michel ?
Alors, si tant est soit que j'en ai mangé, ce qui n'était pas le cas.
Ah non, vous n'en avez pas mangé.
Alors, à ce moment-là, je continue ma
histoire. Mais comment vous justifiez ? Vous êtes de l'autre côté du champ, mais vous n'avez pas touché.
Ah ben, je pense que je lui dirais, ben, vraiment, elles sont tellement magnifiques, que je dois avouer que j'étais tenté d'en prendre, mais que finalement, j'en ai pas pris.
Voilà.
D'accord. Bah écoutez, très bien, je vais poser une question, vous n'allez pas pouvoir y répondre, vous, mais si vous avez goûté des fraises, ensuite, a posteriori, comment est-ce que vous jugez leur saveur ? Quelle est après coup la saveur de ces fraises ? Et c'est une réponse assez importante, vous n'avez pas touché, donc finalement vous êtes bien,
d'accord.
Vous avez toujours faim, mais vous êtes bien, vous n'avez pas goûté
d'accord.
à la saveur de ces fraises. Bon, alors, on va analyser maintenant...
Je suis très curieuse, hein.
Vous êtes très curieuse, vous ne savez pas à quoi font allusion ces fraises rouges, c'est un symbole très commun d'attirance sexuelle et de désir, et en fait, ce test japonais que j'ai fait tester, et que j'ai fait faire plusieurs personnes, en fait, est tout à fait véridique, parce qu'il va tester votre capacité à gérer l'infidélité.
Je suis sûre que vous avez mangé des fraises.
Oh, mais attendez, je ne vais pas vous donner la réponse à un test. vos réponses à ce scénario vont vous éclairer sur votre façon de gérer l'adultère. Alors, la hauteur de la barrière va mesurer le degré de votre maîtrise de soi par rapport à une attirance pour une personne du sexe opposé ou du même sexe, hein, vous êtes attiré par le même sexe. Donc, vous franchissez cette barrière, vous l'avez jugée moyennement haute,
oui.
Au genou. Mmh. Donc, ça veut dire que vous auriez une propension à faire une petite bêtise. Alors, si la barrière est très basse, alors vous pouvez l'enjamber facilement. Si elle est très haute, c'est que vous avez beaucoup de garde-fous. Mmh. Ça va montrer les garde-fous que vous avez par rapport à l'adultère.
Et moi, je n'ai pas précisé, mais elle était en pierre, la mienne. Donc, c'était assez difficile.
Ah oui, d'accord.
Ça, c'est facile, Michel Gauthier, après. Hein. Bon. Le nombre de fraises que vous avez volées, que vous avez mangées, correspond potentiellement au nombre de personnes que vous pouvez désirer en même temps. Combien vous pouvez avoir d'amis, d'amants, d'amour au même moment? Si vous en avez zéro, ça veut dire que vous n'êtes pas tenté, c'est bien, vous êtes complètement fidèle. Un amant, de temps en temps, c'est bien, mais attention à ne pas vous brûler les ailes. Si vous avez dévoré le champ de fraises, il est peut-être temps de vous poser des questions sur votre fidélité.
Non, c'est pas vrai.
Si,
c'est
vrai.
Et vos amis ont répondu parfois à plusieurs fraises.
Je ne livrerai aucun nom, mais effectivement, j'ai décidé de manger une dizaine de fraises. Voilà.
Oh non
moi, zéro. Hein.
Ah, c'est beau, bon, voilà, mais c'est vrai.
Je le dis à destination de la personne qui me regarde tous les dimanches. Et la barrière était très très haute, infranchissable.
Oh, c'est beau, ça ne donne pas de vous.
Les excuses que vous avez données au fermier, eh bien en fait, ce sont les excuses que vous pourriez donner si vous êtes pris la main dans le sac, le doigt dans le pot de confiture au moment d'un adultère. Alors, vous vous dites, je suis désolé, je suis entré, mais je n'ai pas touché. Vous pourriez peut-être dire chez vous, c'est vrai, j'ai mangé une ou deux fraises, je suis désolé. Parfois, une vérité avouée, une erreur avouée suffit à la faire pardonner. Je ne suis pas dans votre couple, hein, mais parfois c'est mieux.
On fera une émission sur l'amour pour la Saint-Valentin.
Oui, vous savez qu'il y a des personnes qui peuvent nier et dire « Ah mais non, attendez, je suis rentré dans ce champ, mais je n'ai pas vu la barrière, etc. » Et enfin, la saveur des fraises après coup, c'est ce goût que vous auriez en repensant à cet adultère quelques mois, quelques années après cette aventure. Souvenez-vous des réponses à ces questions et le jour où vous seriez prêt peut-être à franchir la barrière, écoutez les réponses que vous avez données et peut-être ça vous fera prendre conscience qu'il ne faut pas la franchir, cette barrière, ou en tout cas ne pas goûter les fraises.
C'est intéressant, voilà. Hein, mais vous auriez pu nous piéger en fait en direct comme ça.
C'est vrai parce que vous n'avez pas les réponses et vous voyez, c'est drôle, combien de fraises vous avez mangé? Zéro.
Ouais,
vous
n'avez
prévenu personne. C'est très beau.
Merci François. Alors on va continuer sur le yoga des yeux et avec vous, hein, Michel Lyonnais Dumoutier, pour ceux qui nous rejoignent. Donc en première partie, hein, on a compris finalement que l'Ayurveda proposait aussi une thérapie, le yoga des yeux pour améliorer, entretenir la vue, mais aussi calmer notre mental et ouvrir et développer notre créativité, notre intuition, etc. On va passer au côté pratique dans quelques secondes. On va jouer ensemble. Ouais, ça va être super pour vous allez nous expliquer tous ces exercices qu'on pourrait faire à la maison, à deux, en couple, ou même du coup à 4 ou à 10, c'est ça?
Arrête, non, on touche avec les yeux.
On touche avec les yeux, exactement. Mais avant cela, est-ce que les exercices que vous proposez dans votre livre sont adaptables pour tout type, finalement, de problèmes de vue, ou alors sont bien spécifiques?
Oui, alors en fait, finalement, les exercices sont assez généraux, en fait. On peut les faire un peu tout le temps. D'ailleurs, beaucoup sont basés sur la marche. Et finalement, c'est la relation bon pied bon œil, comme vous indiquiez tout à l'heure, qui d'ailleurs, je vous le signale, est basée sur un principe ayurvédique. C'est qu'il y a une relation en Ayurveda entre le pied et l'œil.
L'ancrage.
Il y a l'ancrage, mais même physiquement, l'organe d'action, c'est le pied, et l'organe d'observation, c'est l'œil. Donc c'est le sens associé à la marche. Donc c'est assez intéressant. Donc cette sagesse populaire, elle s'inspire bien de faits plus profonds. Et donc il y a tous ces exercices-là. Puis bien sûr, il y a certains exercices plus spécifiques quand on est mieux, puis permettre. Mais la plupart sont très généraux. Alors ça peut être de la relaxation, des pratiques de yoga, etc. etc.
Mmh. Alors d'ailleurs, il faudrait pratiquer le yoga des yeux. À quel rythme finalement, pendant combien de temps pour avoir des résultats?
Alors, la question comporte la réponse, à quel rythme? Eh bien, il faut être régulier.
Ouais.
Tout est dans la régularité. Il vaut mieux faire 10 à 15 minutes de petits exercices dans la journée. C'est pour ça que je propose plein d'exercices, parce qu'après, on choisit ce qui vous plaise. Parce que ça vaut mieux que de faire ça une heure le week-end. Et surtout, ce qu'il faut, c'est que ce ne soit pas une contrainte. C'est qu'on ne va pas rajouter une contrainte dans pas du temps en plus. Donc, il faut prendre des exercices qui vous plaisent.
Comme se brosser les dents, en fait. Il faut que ça devienne...
Bah, exactement. Sauf qu'il n'y a plus ludique que se brosser les dents, malgré tout. Donc, c'est ce que j'essaie de faire.
Et vous le faites régulièrement, le yoga des yeux?
Oui, parce que, si vous voulez, moi, je l'ai intégré dans mes pratiques de yoga. Donc, je pratique le yoga tous les matins. Et dedans, j'intègre des exercices plus spécifiques pour les yeux. notamment. Formidable. Après, je peux en faire la journée. Mais c'est peut-être très simple, c'est quelques instants. Respirer.
Oui, combien de temps par jour?
Ben, je vous dis une dizaine de minutes, on peut faire ça, ça suffit. Oui. Mais il faut le faire régulièrement.
Alors, il existe plusieurs courants de yoga. Vous parlez-vous du yoga nidra, hein? Quelles vont être ses spécificités? Pourquoi c'est le yoga nidra qui permettrait d'améliorer, de renforcer la vue?
Alors, le yoga nidra, ça veut dire le sommeil du yogi. Donc, finalement, vous êtes dans un état qui est entre la veille et le sommeil, et dans lequel on vous y amène progressivement par des exercices de respiration, par des images qu'on évoque, des images suivies, des symboles, etc., qui vous permettent de rentrer très profondément en vous-même. Donc ça vous relaxe à la fois les yeux, parce que vous avez les yeux fermés, et puis également le corps, parce qu'on vous fait entrer dans une relaxation physique, puis progressivement vous allez dans des couches très profondes, et comme j'ai dit tout à l'heure, comme on l'a évoqué, plus vous relaxez ce qui est au fond de vous-même, et bien plus vous voyez, et j'ai souvent vu des gens sortant d'une pratique de yoga nidra, regardez, j'avais laissé des mires, vous savez qu'on a chez l'opticien, et ils avaient gagné une ou deux lignes, tout simplement, ne serait-ce que par la détente. Après, ça repart, hein. Mais c'est pour montrer que ça permet cette détente profonde et tout aligné avec la qualité de la vision.
Eh, ça me permet de rebondir, parce qu'il y a quand même une pratique, alors que pour vous, hein, vous étonnez, est-ce que j'ai le droit de la faire comme à la prunelle de vos yeux? C'est drôle ou pas? Bon, après j'arrête, hein, parce que c'est vrai que ça devient super lourd. C'est une technique, bien sûr, toujours inspirée de l'Ayurveda, cette médecine indienne ancestrale. C'est le pranayama. Alors, c'est une technique de respiration. Et c'est drôle parce que finalement, peu importe la discipline, les invités qui viennent sur le plateau nous parlent d'une discipline, il y a toujours la respiration qui revient, comme si c'était la clé, hein, de la bonne santé mentale, psychique et émotionnelle. Et vous dites que le pranayama peut véritablement être un soutien formidable pour améliorer notre vue ou l'entretenir. Alors, quel va être le lien entre la respiration et les yeux?
Ben, si vous voulez, la respiration, c'est quelque chose d'essentiel dans le yoga, dans toutes les pratiques de yoga. On a finalement, on a besoin, si vous voulez, quand on fait du yoga, de ne pas uniquement suivre sa respiration. On insère les gestes du yoga dans la respiration. Et notamment, on va faire dans la respiration tout ce qui est l'exercice des yeux. Et c'est très important parce que c'est ça qui va permettre donc d'être vraiment dans cette méditation permanente que vous avez dans ces pratiques et qui permet justement toujours de calmer et vraiment de calmer.
Est-ce que vous pouvez nous montrer comment se travaille le pranayama? J'imagine que c'est pas... Parce qu'il y a tellement... Il y a aussi la respiration de la cohérence cardiaque. J'imagine que c'est pas la même chose. Comment on respire en pranayama?
Alors,
on peut le faire ensemble comme ça? Alors, vous pouvez même le faire avec nous.
Ce qu'il faut bien comprendre, l'intérêt justement, c'est que la respiration, c'est normalement quelque chose de réflexe. C'est que l'enfant qui naît, ben, il crie. Et puis le vieillard qui décède, j'espère vieillard, eh ben il rend son dernier soupir. Donc c'est quelque chose qui est absolument réflexe.
Oh, c'est beau.
Mais on peut, oui, c'est du premier inspire au dernier expire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes dans cette respiration, ça veut dire que vous avez vous allez donc quelque part être, disons, dans un contrôle de vous-même, dans un contrôle de votre mental. C'est-à-dire qu'au lieu d'être réflexe, ça devient subitement quelque chose que vous maîtrisez. Et c'est pour ça que dans cette respiration, comme vous venez de me demander, en fait, il y a quatre temps. Il y a un temps « je vais inspirer », et puis un temps de pause, un temps d'expire et un temps de pause. Il y a quatre temps.
Alors, montrez-nous. Donc, on peut le faire ensemble.
Inspire, on peut le faire ensemble. Donc, voilà.
Donc, je suis là.
J'inspire.
Déjà, comment je me pose? Je me positionne.
Ça dépend dans quelle posture vous êtes, mais vous pouvez être... Faisons-le en position assise.
Par exemple, je suis au travail ou en télétravail.
Vous êtes à...
Je peux faire une petite pause?
Voilà, faites une pause. Ça, c'est une très bonne idée, effectivement. Il faut en faire toutes les 20 minutes, sinon c'est...
Ah, intéressant comme info. Une pause toutes les 20 minutes pour les yeux.
Pour les yeux, tout à fait. Et là, vous pouvez respirer, c'est-à-dire que vous allez donc faire entrer l'air par les narines. Ça va développer votre...
À fond?
Non, vous allez progressivement. Vous, faites, vous maîtrisez, vous contrôlez. Donc, vous allez inspirer, vous allez faire gonfler votre cage thoraphique. Et puis, l'air, il va descendre. Votre diaphragme va presser sur les viscères.
L'impression. J'inspire, j'expire.
Ah non, vous êtes toujours en train d'inspirer.
D'inspirer,
là.
Et on sent effectivement que l'air va appuyer sur les
viscères. On sent le maître yogi bientôt.
Oui, et le diaphragme va appuyer sur les viscères, donc vous allez avoir la sensation que ça descend jusqu'au bas-ventre. Ça n'est que l'inspire. Bon, ensuite, il y a une pause. Une seconde, deux secondes, trois secondes.
Mais sans respirer?
Sans respirer, une pause poumon.
Très rapide, Karine. Hein,
sinon. Oui, non, mais moi
et
je
après,
suis...
vous remontez, vous expirez en partant du bas et en remontant par le chemin inverse. j'expirais, et ensuite vous faites une pause.
Et alors, ça, on le fait 10 minutes tous les jours.
Ah non, ça, vous le faites...
Mais rien que ça, ça fait du bien.
Mais bien sûr.
Ça oxygène le cerveau.
Et si vous voulez, regardez la différence. Par exemple, quand vous faites un mouvement comme ça, voilà.
Ouais.
Bon, vous voyez tout de suite. Mais quand vous faites avec la respiration, c'est complètement différent. Vous avez votre pause.
Ouais, j'adore. Salutation au soleil, un peu. Hein.
Voilà, et puis vous descendez, et tranquillement, ça veut dire que vous êtes dans votre posture. Parce que là où va le souffle, va le mental. Et là où va le mental, va le souffle. Donc, quand vous êtes concentré sur votre respiration, votre mental est concentré sur votre respiration et pas sur autre chose. Et tout le truc qui tourne là-haut, il s'arrête. Et le but du yoga, il ne faut pas l'oublier, c'est d'arrêter ou de limiter les fluctuations du mental. C'est ça le but du yoga. C'est écrit dans les tout premiers vers des textes
védiques.
Oui.
Intéressant. Hein. Alors, comment fait-on ? Je suis au bureau. Est-ce que vous avez des petites habitudes on a peut-être sûrement des habitudes à reprendre, oui. Ou peut-être à rectifier. J'ai mon ordinateur devant moi. Je travaille, le matin, 4-5 heures devant mon ordinateur. Oui. Quels sont les conseils que vous recommandez pour entretenir, améliorer notre vue, mais aussi vraiment ne pas tomber dans un burn-out aussi?
Exactement, parce que ça peut arriver. Oui. Alors, d'abord, il faut commencer par s'occuper du poste de travail. Alors maintenant, je n'ai pas de critique sur vos sièges particulièrement, mais c'est vrai que si vous travaillez 4 heures...
Il n'y a pas
heures,
de dossier...
Non, mais moi, je n'ai pas de dossier, parce qu'il y a des sièges en forme de selle qui sont presque entre la position debout et la position assise. Donc ça ne bloque pas le bas du dos, ça ne bloque pas trop le haut du dos, et vous êtes bien mieux. Et vous avez même des bureaux qui sont mobiles, que vous pouvez faire monter, descendre, et travailler en partie debout.
Et quelle est la relation avec les yeux ?
Alors, la relation avec les yeux, c'est surtout cette zone-là, vous rappelez-vous, la charnière de la caméra, où se trouvent les nerfs optiques. Et finalement, si vous détendez cette zone-là, ça fait beaucoup de bien et ça permet d'améliorer la vision. Ensuite, ça, c'est une chose, vous avez intérêt aussi à régler votre écran. Parce que l'écran, si c'est uniforme, le soir, il y a trop de bleu. Vous avez remarqué que quand le soleil se couche, ça devient rouge et ça donne une instruction au cerveau. Commencez à enclencher ce qu'on appelle la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil.
C'est génial.
Et le matin,
la lumière rouge.
Et voilà. Et le matin, quand on arrive, le soleil est bleu et la lumière bleue va vous faire arrêter la mélatonine. Donc, être en pleine forme. Donc, ne jamais utiliser d'ailleurs les écrans ou les smartphones dans son
avant lit, de dormir.
Avant de dormir, quand on n'a pas mis ce genre de...
Juste une petite question, la luminosité, du coup, il faut la mettre très très forte ou au contraire très très basse?
C'est ce qu'il faut. Moi, ce que je fais personnellement, pour lire pour les écrans...
Sur les écrans.
Alors moi, personnellement, ce que je fais, c'est que j'ai implanté un petit logiciel gratuit qui s'appelle F.lux, qui le règle automatiquement. Je choisis... Et donc, du coup, il va enlever les bleus le soir et aller vers le rouge, comme ça, on peut s'endormir. Ça, c'est une des techniques. Et alors après, tous les 20 minutes, effectivement, il faut peut-être se lever, boire un verre d'eau, il faut respirer, regarder loin, puis près pour faire travailler les yeux, peut-être faire des mouvements d'yeux, relaxer. On peut se trouver des techniques de relaxation autres et arrêter. Il faut peut-être
et prendre le temps, accepter de prendre le temps, parce que parfois, on se dit, mais non, comme ça, je finis plus vite. Mais non, il faut prendre
Exactement.
Le temps. Hein.
Il faut
c'est important. Alors, on va continuer encore sur le côté pratique, hein, puisque dans votre livre, vous parlez aussi de l'exercice. Alors, peut-être que c'est aussi un des exercices les plus connus et à faire, parce que c'est un exercice de relaxation, c'est le palming.
Le palming, oui.
Alors, comment ça se passe?
Le palming, je ne sais pas si vous le faites en
déjà,
même temps.
Pourquoi faire?
Alors, le palming, c'est très important de le comprendre. Effectivement, ça va détendre justement cette partie du dos et relaxer profondément jusqu'au mental. Alors, il y a plusieurs variantes. Normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on frotte ses mains. Voilà. Okay. Ensuite, vous allez les mettre en forme de coque afin de ne pas toucher les yeux.
Jusqu'à ce que ça soit bien chaud.
Que ce soit bien chaud, voilà. Vous pouvez m'applaudir éventuellement.
Ouais. Dès que ça brûle, dès que ça fait des flammes, quand
voilà, crac, on arrête. Et à ce moment-là, on va les mettre, il y a plusieurs techniques, on peut les mettre en général en forme de V, mais si c'est bien, et on va venir les poser sur le nez. Alors vous allez garder les yeux ouverts, en sorte de vérifier qu'il y a un noir absolu, c'est que vous ne voyez pas du tout de lumière.
Génial.
Et okay. Si vous avez ça, dès que vous avez atteint ça, vous allez fermer les yeux. Et là, vous allez partir dans un petit voyage intérieur.
Ah, donc, quand même, il faut quand même...
Alors, je vous propose de vous mettre les coudes, parce que c'est moins... Alors, l'idéal, c'est même mieux...
Pour ceux qui nous rejoignent, ils ne vont rien comprendre. Ils vont voir comme ça.
Mais on peut même le faire sur ces genoux quand on est assis.
D'accord, c'est super.
Voilà. Donc, et là, vous allez continuer. Il
vaut mieux prévenir ses collègues. Hein.
Oui.
Oui.
Ou
c'est
faire,
vrai, parce
ou
c'est
leur faire
dépressif.
Le truc,
hein.
Leur faire, leur expliquer, leur faire. C'est parce vrai. Qu'après, vous allez sentir la chaleur qui va gagner vos yeux. Et puis, la surface des yeux. Vous allez sentir cette chaleur qui traverse le globe oculaire. et qui va jusqu'au nerf optique.
On a perdu Michel.
C'est voilà. Génial.
Combien de temps?
Ça dépend. Là, j'ai vu quelques minutes, c'est possible. Ah oui. Mais 10 minutes, c'est pas mal. Parce que vous pouvez, d'ailleurs, je l'explique, dans le livre, il y a d'autres variantes. Hein. Vous pouvez faire des visualisations, comme j'ai indiqué, un peu plus longues. Vous pouvez aussi faire, les yeux étant fermés, des mouvements d'yeux vers le haut, vers le bas. Enfin, il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser.
Et tout ça permettrait d'entretenir et d'améliorer la vue et de calmer vraiment, de redescendre le stress. Donc vraiment, c'est tout bon. Alors, un autre exemple que vous avez donné tout à l'heure, c'est le suivi du pouce.
Ah oui.
Il n'y a pas à mettre dans l'œil. Hein.
Non. Alors, ça, c'est très simple. Normalement, on part à partir de ses cuisses. Moi, je vais partir de là.
D'accord.
Donc, vous allez simplement, à l'inspire, vous allez monter le bras par l'avant en suivant du regard le pouce.
Oui.
Sur le temps de pause dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous allez tourner l'épaule et la tête. Et sur l'expire, vous allez descendre le pouce en suivant toujours du regard jusqu'à...
Ah, donc il y a un vrai geste.
Il y a un vrai geste, oui.
Ouais.
Ensuite, ça permet donc de détendre là-haut tout en suivant. Ensuite, vous allez revenir dans le sens inverse. Alors, je le fais un peu rapidement. Hein. Normalement, ça se fait plus lentement. Ça se fait rythmé avec la respiration. Bon, on le fait... Là, j'ai fait en général du côté gauche, puis du côté droit. Et ensuite, on peut le faire les yeux ouverts, comme je l'ai fait. Ensuite, on peut aussi fermer, suivre le pouce avec les yeux fermés. Ce qui fait plus travailler, d'ailleurs, l'optique. Ça se voit, hein, qu'on
Et là, c'est pourquoi cet exercice?
Alors, si vous voulez, la première partie, c'est les yeux ouverts, c'est plutôt la caméra qu'on travaille.
Et quand la caméra.
C'est-à-dire la jonction, comme on a rappelé l'exemple du...
Oui, pour ceux qui nous rejoignent. Surtout.
Ah, c'est vrai, pardon.
Parce que moi, je connais tout.
Voilà, vous connaissez tout. Donc, j'avais donné l'image du corps humain comme un trépied avec une caméra qui correspond à notre tête et une optique. Et en fait, vous travaillez sur la jonction entre le trépied et la tête, qui est donc la caméra. Et en fait, ça, c'est quand vous avez les yeux ouverts. Quand vous avez les yeux fermés, vous travaillez plus sur l'optique elle-même. C'est plus subtil.
D'accord. Ok, c'est intéressant, hein. Alors, il y a aussi d'autres exemples, c'est le sunning. Alors, ça, c'est très ambigu, parce que oui, parce que, donc l'Ayurveda...
On en a parlé avant l'émission.
Mais oui, c'est vrai, parce que, mais en avant le fait que c'est important, les bains de soleil, parce que ça active la joie, la force vitale. Alors, si on écoute la médecine classique, hein, il faut mettre des lunettes de soleil et se protéger nos yeux. Alors, et le sunning, c'est tout le contraire, c'est des bains de soleil.
Alors, en fait, les deux sont un peu vrais. Quoi, parce que c'est vrai qu'il paraît que 40% de la population française est sensible à la lumière. Elle peut être un peu dépressive quand il n'y a plus trop de lumière. Donc, c'est important. L'œil a besoin de lumière. Voilà. Alors, effectivement, si vous allez vous promener sur un glacier ou si vous allez faire de la voile, etc., bon, évidemment, vous avez une lunette de soleil. Mais il y a des fois, quand c'est le soleil de printemps, et si peut-être au début, vous sortez de la pièce, vous avez les yeux vers le sol, vous clignez un petit peu des yeux. D'ailleurs, j'ai oublié de dire tout à l'heure, le sciement est très important. Même quand vous êtes à votre bureau, il ne faut pas hésiter à scier pour créer des larmes. Les yeux sont secs et donc sont un peu... Donc rouge, etc., parce qu'on a passé de larmes. Et devant l'écran, on a les yeux fixés, et donc on a des larmes qui ne viennent pas. Donc il ne faut pas hésiter à scier, et tout ça va permettre d'entraîner les impuretés, etc., et d'humidifier la surface.
Intéressant. Voilà. Donc, et le sunning, c'est des véritables bains de soleil, voilà. On s'arrête?
Mais si vous voulez, le sunning, normalement, tel que moi je l'ai eu pratiqué, ça se fait d'abord le matin et le soir, quand le soleil n'est pas très haut dans l'horizon, et ça se fait à un moment donné, on ne regarde pas le soleil, il ne faut jamais regarder le soleil. Mais par contre, on peut très bien pivoter de gauche à droite, l'idée étant de passer de zones de soleil à des zones d'ombre, ce qui va régénérer certaines...
Ah oui, voilà. C'est quand on est plein pot
face
au soleil.
Donc,
pour moi, ça me paraît très criminel. Voilà.
Alors, il y a aussi un exercice pour relaxer les yeux.
Oui.
Montrez-nous. Et là, je crois qu'il faut une petite balle.
Alors, il y a deux exercices. Oui, alors il y a l'exercice, si vous voulez, on peut donc prendre cette balle. Alors, on va imaginer, comme je ne peux pas monter sur le... On a refusé que je monte sur le...
Sur la table. Ça se fait sous le pied.
Ça se fait sous le pied. Donc, alors, on va imaginer que ma main, c'est mon pied. Et donc, vous allez tout simplement faire tourner la balle dans un sens, puis dans
debout
un... tranquillement. Ouais, si, vous pouvez le faire assis, là, à votre bureau.
Non, couché, Karine. Là, vous serez... Fort.
Parce que là, on a...
Le but étant, bien sûr, de ressentir quand même...
C'est un peu comme la réflexologie, quelque part. C'est que ça détend toutes les extrémités nerveuses, en fait.
Génial. Ça fait du bien, ça.
Et ça améliore la vue.
Ah bah oui, c'est ça. Parce que ça va relaxer. Ça va relaxer votre corps et donc relaxer votre vue. N'oubliez pas, il faut toujours alterner les assises de...
Donc le massage des pieds par son conjoint, c'est pas mal aussi,
ah,
le soir.
Oui. Alors il y a une technique, c'est justement pour quand on parle de massage, ça c'est une technique ayurvédique. Vous avez ce bol qu'on appelle un kansu, qui est en 5 métaux.
Un kansu.
Kansu.
Ça s'écrit comment pour ça, parce qu'on me le demandait.
K-A-N-S-U.
K-A-N-S-U.
S-U. Et donc en 5 métaux, on utilise en général du beurre clarifié dessus, et ça sert aussi à masser le pied.
Ah bon?
C'est excellent pour les yeux. Puisque bon pied, bon œil, comme vous avez compris.
Génial. Voilà.
Et donc vous faites ça alors, sur le pied, évidemment.
Allez, un dernier exercice, parce que ça va bientôt se terminer. Alors, un exercice à faire à deux. Hein.
Oui,
vous allez voir, pour améliorer. Alors, c'est pour faire quoi?
C'est pour faire travailler les yeux, là, au contraire. Normalement, on fait dans l'ordre.
Et là, c'est ludique, quand on est voilà. On rentre le soin.
Vous allez vous faire de l'œil.
Voilà. On va se faire de l'œil. Alors, comment ça marche? Alors, vous pouvez le faire aussi si vous avez une petite balle de tennis chez vous. Ou une autre balle, hein, d'ailleurs.
Oui, ouais. Ah non, c'est mieux une balle de tennis, parce que c'est mou, et, mais pas trop dur. Donc, c'est la consistance parfaite. Alors, on va déjà tester, voir si Karine sait rattraper une balle. Voilà, on va faire ça comme ça.
Super.
Et maintenant... Donc, ça, c'est bien, on peut partir. C'est parti. Maintenant,
donc,
on va échanger les balles. Alors, l'idée est la suivante, c'est que Karine va suivre la balle que je lui envoie.
D'accord.
Et moi, je vais suivre la balle qu'elle m'envoie.
Bon. Moi, je compte les points.
Voilà, et effectivement, parce que si on regarde... Il faut que tu me regardes un petit peu celle qui part pour ne pas l'envoyer dans le nez de l'un. Ou de l'autre, voilà.
D'accord, le but étant de faire travailler mes...
De faire travailler les yeux, surtout.
D'accord, ok.
Essayez comme ça, voilà. Hop.
Génial.
Voilà, et on refait une deuxième fois. Hop.
Super. Oh, c'est moi, en même temps, j'ai pas bien lancé.
Mais c'est pas grave, parce que ça permet d'aller plus loin. Donc les yeux s'adaptent différemment. Si la balle tombe, ça n'a aucune importance. Le but, c'est de regarder la balle qui...
Et si je suis tout seul, alors je peux travailler avec une balle?
Ah oui, on peut travailler avec
une
balle.
Contre un mur.
François.
Non, on l'envoie comme ça. Mais il faut la suivre des yeux. Le but, c'est pas de jouer à la balle, c'est de suivre les yeux. Des yeux, la balle de haut en bas.
Mais finalement, les joueurs de tennis, ils ont une super vue.
Ah ben, sûrement.
Ils le travaillent tous les jours.
Sans le savoir.
Sans le savoir.
Puis on peut aussi le faire de droite à gauche. Vous envoyez la balle, les yeux ouverts, et vous pouvez fermer les yeux en imaginant le trajet derrière le dos de votre balle. Puis vous recommencez. Vous faites ça d'un côté, de l'autre.
C'est super. Plein d'exercices pratiques. Et il y en a plein, justement, dans votre livre. Je trouve que vous abordez l'Ayurveda de façon simple, pratique.
Intelligente.
Il n'y avait pas de livre sur le yoga des yeux aussi simple et pratique. Merci d'être venu. C'est aux éditions Jouvence. On termine toujours, c'est la tradition ici, hein. C'est une petite routine, en fait, qui fait du bien. On tire une petite phrase au hasard. C'est un téléspectateur qui nous l'envoie. Alors, je vous demanderai, bien sûr, de citer son prénom, son département, et puis l'auteur de cette phrase. Et n'hésitez pas, hein, pour tous ceux qui veulent participer, nous, on les découpe, on les met dans notre petite boîte. Vous envoyez tout, en fait, sur Instagram ou sur Facebook, qui fait du bien. Allez-y.
Alors, il s'agit de Céline. Donc, qui est du département 02, donc de l'Aisne, si je me rappelle bien. Et c'est soit reconnaissant envers les gens qui te rendent heureux, ils sont les jardiniers qui font fleurir ton âme. Et c'est de Marcel Proust, et ça tombe bien parce que c'est l'un de mes auteurs favoris.
Alors, mesdames, je vous dis, ici, il n'y a pas de hasard, tout est un peu magique. Allez-y, François.
Tournez votre visage vers le soleil, on en parlait tout à l'heure.
Incroyable.
Et les ombres, non, c'est pas fini, hein, Karine. Et les ombres tomberont derrière vous. Proverbe maori. De Laurent, du 12.
C'est très beau, merci Laurent. Les rêves sont la littérature du sommeil, Jean Cocteau. Dis donc, c'est beau. Hein. Sabine, du 65. Écoutez, on vous embrasse. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous regarder. On reçoit plein de messages, ça fait vraiment plaisir. Merci encore Michel Lionel Dumoutier d'avoir été avec nous. Merci. François, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler du pouvoir des cheveux qui serait même le reflet de l'âme. Ça va être passionnant, oui, François. Merci à tous. D'ici là, je vais passer une bonne semaine. Et surtout, on vous souhaite de vous faire du bien, hein, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Hein.
On fera le yoga des cheveux.
Le yoga des cheveux, voilà, c'est ça. C'était top. On a eu le temps vraiment de bien aborder, je trouve.
Parfait.
C'était super. Merci beaucoup,
merci,
Michel. Hein.
Merci de tes conseils.
Très généreux.